Les dessous de l'Infox. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale.
Les dessous de l'Infox.
La lutte contre l'Infox est devenue une préoccupation majeure pour les médias. Certains journalistes y consacrent désormais l'essentiel de leur activité. À défaut de convaincre les adeptes des théories complotistes, ils parviennent toutefois à rétablir la vérité grâce à leur travail d'enquête et de vérification. Une série de 10 podcasts vient d'être produit pour France Culture qui démonte les thèses complotistes apparues depuis le début du XXe siècle. Du négationnisme des chambres à gaz aux attentats du 11 septembre en passant par le génocide rwandais. On en parlera avec David Servenet, journaliste, auteur et producteur de la série Mécanique du complotisme qu'a rencontré Sophie Malibaud. En Côte d'Ivoire, une vidéo concernant l'opposant Pascal Affine-Guessan sortie de son contexte. Vérification faite à Abidjan par Sadia Manjo de l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse. Mais pour commencer, les dessous de l'Infox, la chronique. Bonsoir Sophie Malibaud.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Vous revenez sur cette rumeur selon laquelle les enfants musulmans de France sont traités par le président Macron comme les nazis avaient traité les juifs. Alors cette infox a circulé sur les réseaux avant d'être démontée, mais la machine à désinformer a pris le relais et le mensonge continue de se répandre sur Internet. D'où provient cette infox ?
Alors tout est parti d'une interprétation erronée du projet de loi confortant les principes républicains. C'est l'intitulé de ce texte destiné notamment à lutter contre l'islamisme radical. Plusieurs médias anglo-saxons ont accusé le président Macron de stigmatiser les Français musulmans à travers cette initiative à des fins électorales. C'est le point de vue d'une éditorialiste du Washington Post qui, dans un tweet du 21 novembre, dénonce le président Macron pour avoir décidé de ficher les enfants musulmans en leur attribuant un numéro d'identité. Karen Attia et ses 200 000 abonnés est alors suivie par la ministre pakistanaise des droits de l'homme, Shirin Mazari, qui va jusqu'à faire la comparaison avec les juifs obligés de porter l'étoile jaune lors de la Seconde Guerre mondiale.
Alors l'auteur de ces tweets s'est rétracté. Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire ?
Le fait que rien dans ce projet ne vient corroborer cette accusation. Le numéro d'identité en question, ce qu'on appelle le numéro INE, est un identifiant national étudiant employé par l'éducation nationale pour le suivi scolaire de tous les élèves de France, de la maternelle au bac. Simplement, le projet de loi prévoit désormais d'en doter tous les enfants d'âge scolaire pour ne pas laisser de côté ceux qui se trouvent scolarisés à domicile, voire dans des écoles associatives clandestines dont certaines dispensent un enseignement religieux intégriste. Mais la mesure vise toutes les confessions sans discrimination. Les auteurs des tweets mensongers se sont rendus compte de leurs erreurs, mais un peu tard.
Et on parle pourtant d'infox. On ne pourrait pas considérer que c'est une simple erreur ?
Non, alors à la base, oui, c'est une erreur d'interprétation. L'éditorialiste américaine a ensuite publié ce tweet. « Je m'excuse sans équivoque pour l'erreur que j'ai faite en disant que le projet de loi Macron vise les enfants musulmans. J'ai une responsabilité envers les faits. Il aurait été préférable qu'elle vérifie avant de tweeter. » C'est le même biais de confirmation qui a poussé la ministre pakistanaise à relayer l'infox, provoquant la réaction du ministère français des Affaires étrangères. Malheureusement, le tweet d'origine a fait son chemin, relayé par des tweetos qui, eux, n'ont aucune intention de rétablir la vérité, comme on peut le constater sur les comptes flirtant avec cet islamisme radical que le gouvernement tente de faire reculer. À peine un mois après la décapitation de l'enseignant Samuel Paty et l'attentat qui a fait 3 morts dans une église de Nice, la propagation d'infox de cette nature est là pour attiser la haine.
Les dessous de l'Infox.
La chronique, tous les vendredis sur RFI. Merci Sophie Malibaud. Vous restez avec nous pour mener l'entretien d'aujourd'hui.
À tout de suite.
Les théories complotistes ressurgissent souvent en temps de crise. Nos confrères de France Culture ont consacré à certaines d'entre elles une série de 10 numéros qui vient d'être récompensée lors de la 22e édition du Grand Prix des médias CB News. La série intitulée « Mécanique du complotisme » montre comment des thèses fallacieuses ont jalonné l'histoire du XXe siècle. Cela commence par l'histoire de ce complot centenaire, les protocoles des sages de Sion, avant d'aborder le négationnisme des chambres à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale, les attentats du 11 septembre 2001, sans oublier les thèses complotistes sur la pandémie de Covid-19. Le 8e numéro de la série se consacre au génocide des Tutsis du Rwanda,
On en parle.
Son auteur, le journaliste David Servenay, vient nous en parler aujourd'hui. Interview à distance, Covid oblige, menée par Sophie Malibaud.
Bonjour David Servenay.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur la question rwandaise, dont on citera Au nom de la France, Guerre secrète au Rwanda, avec Benoît Colomba aux éditions La Découverte. Expliquez-nous, David Servenay, pourquoi le Rwanda figure dans cette série sur le complotisme.
Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, j'allais dire, comme tout génocide, celui qui s'est déroulé au Rwanda, donc le génocide des Tutsis au printemps 1994, est un génocide qui très rapidement a fait l'objet d'un courant qu'on pourrait qualifier de révisionniste puis de négationniste, qui visait évidemment à nier les faits qui se sont passés. Et j'ai dit comme tout génocide parce que, en fait, dans le projet génocidaire, dès le départ, il y a de la part des auteurs cette intention de nier les faits qui ensuite vont leur être reprochés par la justice internationale. On pourra y revenir. Et puis après, il se trouve que, en fait, il y a depuis quelques années, et c'est toujours un phénomène contemporain, un vrai courant dans l'opinion publique qui ne comprend pas bien ce qui s'est passé à l'époque et qui est alimenté évidemment par ce courant révisionniste que j'évoquais un instant, qui est composé d'une multitude d'acteurs, qui va de journalistes à des universitaires, à des acteurs aussi de cette histoire. Et face à ça, en fait, ça produit une lecture extrêmement brouillée des événements. Et c'est une des raisons pour lesquelles France Culture a décidé d'inclure le génocide des Tutsis dans cette série sur la mécanique du complotisme.
Comment les auteurs du génocide s'y prennent-ils pour justifier ce qui s'est passé en 94?
Alors en fait, ça commence très très tôt, dès la fin de la guerre et du génocide. On est en septembre 1994, donc après l'été, donc la déroute du régime extrémiste, dans le Kivu, dans les camps qui sont occupés par les ex-forces armées rwandaises, l'ensemble des ministres et des hauts militaires, des hauts gradés qui ont fui le pays.
Et donc au Congo.
Donc au Congo, c'est ça, exactement. Côté Congo, de l'autre côté du lac Kivu, vu du Rwanda. Et à ce moment-là, en fait, tous ces gens savent très bien et comprennent très vite qui vont être poursuivis par la justice internationale, parce qu'évidemment, on commence à parler de la mise en place d'un tribunal pénal international, etc. Et à ce moment-là, ils sont approchés par des avocats, par des juristes, donc spécialistes du droit international, qui viennent vers eux pour leur dire, ben voilà, il va peut-être falloir commencer à préparer votre défense, parce que vous risquez fort d'être arrêté et poursuivi par la justice internationale. Et c'est là que se met en place, en fait, tout un argumentaire qui va consister d'abord à nier totalement les faits, c'est-à-dire non, il n'y a pas eu de massacre, ou alors s'il y a eu des massacres, ce n'est pas nous, ce sont les autres, c'est l'ennemi en fait. Et c'est là que se met en place en quelque sorte le renversement intellectuel qui consiste à dire si ce n'est pas nous, c'est notre ennemi et notre ennemi qui a utilisé toutes les ruses possibles pour commettre ou inciter au massacre. Et c'est là en fait que la mécanique du complotisme précisément se met en œuvre, puisque en commençant à raisonner comme ça, on va commencer de fait à inventer des choses, comme vous dites, à fabriquer des preuves. Une des premières fabriques de la preuve, c'est celle du colonel Théonès Bagosora, qui est considéré comme le cerveau du génocide, qui va faire une espèce de petit rapport, qui va être une des bases principales, en fait, de l'argumentaire et des raisonnements qui seront utilisés ensuite par tous les gens qui vont adhérer à cette idée. Voilà. Et c'est vraiment là où ça se met en place. Et puis, petit à petit, ça va se développer par différents biais.
Le moment crucial aussi dans cette théorie du complot, bien sûr, c'est l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Alors, il y a eu une procédure en justice qui s'est achevée par un non-lieu. Saura-t-on un jour la vérité? Comment est-ce que cet événement est utilisé, est instrumentalisé dans la théorie du complot?
Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dès le départ, cet événement est utilisé comme une espèce de chiffon rouge. C'est-à-dire, ça vise à justifier, du point de vue des génocidaires, ce qui aurait déclenché la colère spontanée du peuple, amenant à mobiliser les gens et donc à massacrer leurs voisins. Et donc c'est une espèce d'explication un peu fonctionnelle qui consiste à dire c'est en réaction à cet attentat que il y a eu les massacres du génocide. Et donc si on identifie les commanditaires de l'attentat, alors on aura identifié les génocidaires. Vous voyez, c'est une espèce de raccourci comme ça qui est fait. Évidemment, c'est un jeu de dupes, puisque ce qui se passe à ce moment-là, c'est la mise en application d'un projet qui est déjà très ancien, qui a été préparé au moins 2 ans avant, qui a été planifié, qui est celui du génocide. Donc, les génocidaires, on sait bien qui ils sont, on sait bien comment ils se sont préparés, etc. Tout, l'historiographie, ça, aujourd'hui, l'a bien établi. Mais c'est un point qui, en fait, l'attentat constitue une sorte de pierre angulaire, si vous voulez, de raisonnement pour tous les révisionnistes, pour, encore une fois, renverser le raisonnement intellectuel.
Il y a un personnage important dans ce dispositif, c'est Paul Baril, le capitaine Baril, ancien gendarme de l'Élysée, qui était à ce moment-là à la solde d'Abiyarimana, du président rwandais.
Absolument. Et, Paul Baril, à ce moment-là, a signé un contrat d'assistance avec la famille Abiyarimana, et le 28 juin 1994, donc au tout début de l'opération turquoise, il fait une apparition incroyable à la télévision et dans les médias français pour énoncer justement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ce fameux faux syllogisme de l'attentat et de dire à qui profite le crime. Et donc, comme le FPR est en train de gagner la guerre, la rébellion, bah c'est à eux que ça profite, donc ce sont eux les génocidaires. C'est exactement ce que dit Baril. Et cet argumentaire, en fait, Paul Baril ne va cesser, qui est évidemment complètement faux, qui va vite d'ailleurs être démonté, hein, comme on dit, vérifié et fact-checké, comme on dit aujourd'hui par les médias, par les journalistes, mais cet argumentaire va perdurer, c'est-à-dire que 10 ans après, Paul Baril répète la même chose, 20 ans après, il répète encore la même chose, et en fait, il alimente encore une fois ce courant révisionniste, et ensuite, il va faire des émules à droite à gauche, parmi, encore une fois, quelques universitaires, ou parmi des journalistes bien connus qui ont relayé exactement cette thèse. Et il est évident qu'aujourd'hui, on le sait, d'autant plus que Paul Baril, après, est intervenu dans le cadre de l'enquête judiciaire qui portait donc sur ces faits, sur l'attentat, en imposant un interprète qui était un ancien espion du régime. Voyez, donc, enfin, il y a eu...
C'est important, cet interprète, en l'occurrence, qui va donc travailler aux côtés du juge Bruguière et qui est, en fait, marié à la fille de Kabouga, financier du régime.
Oui, et surtout, qui est un des espions en chef du régime extrémiste, puisqu'il était second conseiller à l'ambassade du Rwanda en Suisse, et qu'une de ses missions, c'est de surveiller les milieux de l'opposition rwandaise, c'est-à-dire notamment les gens du FPR. Donc voilà, donc effectivement, la personne sur qui se repose beaucoup le juge Bruguière, qui mène l'enquête, c'est ce monsieur-là, qui, ça va être prouvé aussi par la suite, va trafiquer un certain nombre d'interrogatoires, faire croire à des témoins des choses qui sont pas vraies, etc. Bon, bref, il y a une vraie manipulation, et cette manipulation se fait par l'intermédiaire de Paul Baril, l'ancien gendarme de l'Élysée.
Il y a aussi, en arrière-plan, l'idée d'un grand complot international. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? C'est assez compliqué, c'est de la géopolitique, et ça implique les Britanniques, les Américains, et même les Israéliens, le Mossad.
Voilà. Alors, pour cela, en fait, il suffit d'écouter, par exemple, l'explication que peut faire de tous ces événements Hubert Védrine, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, qui a été et qui reste aujourd'hui le grand promoteur de cette lecture des événements, qui consiste à dire que, en fait, en Afrique, il y a une lutte permanente entre les anglophones et les francophones.
Ce qui est avéré.
Ce qui peut être en partie avéré sur un certain nombre de choses, mais là il pousse le raisonnement très loin. Il dit en fait, dans le cadre de cette offensive anglophone, donc qui est menée par le FPR, soutenu par l'Ouganda, eux-mêmes soutenus par les Américains, la CIA et Israël aussi, puisque on met un peu tout dans le même sac. En fait, donc cette offensive et donc le génocide, puisque après le génocide, il va y avoir, comme vous le savez, les deux guerres du Congo, qui vont un peu modifier quand même la géopolitique dans la région. En fait, tout ça est un vaste plan qui, dès le départ, a été conçu pour conquérir l'ensemble géographique de cette Afrique centrale. C'est une explication qui, évidemment, est simplissime, j'allais dire, mais surtout, encore une fois, qui vise à promouvoir, dans un premier temps, ce qu'on appelle la thèse du double génocide, c'est-à-dire qu'il y aurait eu le premier génocide, celui qui est avéré, des Tutsis, et puis il y en aurait eu un second commis contre tous les gens qui s'étaient réfugiés, donc contre les Hutus qui s'étaient réfugiés au Congo. On cite en permanence un chiffre de 4 millions de morts, voire 6 millions de morts, qui n'est pas du tout sourcé, voilà, qui est apparu un beau jour, et donc il n'y a pas de travaux, si vous voulez, historiographiques pour le démontrer. Donc toute cette explication vise in fine, encore une fois, à renverser la hiérarchie des responsabilités, c'est-à-dire qui consiste à dire, il y a eu une guerre qui a été provoquée par une rébellion, le camp d'en face a choisi le génocide, mais en fait, cette responsabilité, mais c'était normal de faire ça, quoi, voilà. Et donc, en fait, in fine, la responsabilité du génocide incombe aux gens de la rébellion du FPR. Bon, et donc, encore une fois, c'est un discours qui est relayé assez fréquemment, et notamment par Hubert Védrine. Pourquoi ? Parce que pour lui, c'est aussi une manière de justifier des choix politiques qui ont été désastreux à l'époque et qui ont été faits par la France.
Et le président Sarkozy ayant parlé d'aveuglement à l'époque.
Absolument. Il a même parlé ensuite d'une erreur aussi, une erreur profonde d'analyse. Bernard Kouchner, son ancien ministre des Affaires étrangères, lui parle même d'une faute politique. Bernard Kouchner, qui pourtant est un ancien socialiste, donc proche du président Mitterrand. Mais encore une fois, c'est aussi une posture qui est dans le cadre d'une justification de sa propre action.
David Servenet, journaliste, auteur et producteur de la série « Mécanique du complotisme ». Nous retrouvons à Abidjan Sadia Mandjo, journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse. Bonjour Sadia.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une publication sur Facebook qui prétend montrer Pascal Affine-Guessant, l'ancien Premier ministre ivoirien, en train d'être harcelé par des militaires.
Effectivement, depuis le 12 novembre, une vidéo de 5 minutes circule sur les réseaux sociaux ivoiriens. On y voit 6 hommes forcés d'exécuter des pompes par des hommes en tenue militaire. On reconnaît parmi eux Pascal Affine-Guessant, l'ancien Premier ministre ivoirien entre 2000 et 2003, sous la présidence de Laurent Gbagbo.
Pascal Affine-Guessant était aussi candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire, me semble-t-il.
Oui, pour rappel, Pascal Affine-Guessant, c'est le président du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Il faisait partie des 3 candidats opposés au président sortant Alassane Ouattara. Avec l'ancien président Henri Conan-Bédier, ils avaient appelé à la désobéissance civile et au boycott du scrutin. Pour eux, Alassane Ouattara n'avait pas le droit de se présenter pour un 3e mandat. Après l'élection, ils ont d'ailleurs annoncé qu'ils ne reconnaissaient pas sa victoire et qu'ils voulaient instaurer un gouvernement de transition.
On en a beaucoup parlé sur RFI. Revenons à la vidéo. Alors on voit Pascal Affine-Guessant détenu, c'est ça ?
Oui, il a été arrêté dans la nuit du 6 au 7 novembre. Comme d'autres membres de l'opposition, il est accusé notamment de complot contre l'autorité de l'État. Nous ne savons pas où il est détenu et ses avocats se sont plaints de ne pas pouvoir lui rendre visite. Dès le lendemain de son arrestation, des rumeurs sur les réseaux sociaux ont annoncé qu'il était mort après avoir été torturé par électrocution. Ça avait été démenti par une vidéo où on le voyait souriant et détendu dans un canapé, déclarer qu'il se portait bien et qu'il n'était pas torturé.
Donc cette vidéo où on le voit faire des pompes est fausse.
Elle est vraie, mais elle n'a pas été filmée en 2020. En faisant nos recherches, on s'est rendu compte qu'elle datait en réalité de 2011. Pour la retrouver, on a d'abord essayé dans un premier temps la recherche d'images inversées avec Google Images et Yandex. Ça n'a donné aucun résultat concluant. Donc, on a tout simplement fait une recherche avec les mots-clés « Côte d'Ivoire, des militaires font faire des pompes » dans Google. Ça nous a conduit à un article avec la même vidéo. Il avait été publié le 21 juillet 2011 et s'intitulait « Côte d'Ivoire, vidéo de Pro Gbagbo humilié ». Selon l'article, cette vidéo montre 6 proches de Laurent Gbagbo, détenus dans la prison de Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire.
Alors rappelez-nous pourquoi ils ont été arrêtés cette année-là.
En 2011, la Côte d'Ivoire était en proie à une violente crise post-électorale. Le président sortant Laurent Gbagbo avait refusé de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de décembre 2010 et le pays avait basculé dans la violence. Pascal Affine-Guessant et d'autres partisans de Laurent Gbagbo, dont son fils Michel, que l'on voit aussi sur cette vidéo, avaient été arrêtés. Pascal Affine-Guessant avait finalement été libéré en 2013. 10 ans plus tard, il est à nouveau détenu. On ignore dans quelles conditions, mais une chose est sûre, la vidéo qui est diffusée sur les réseaux sociaux en ce moment ne montre pas sa détention actuelle.
Bien, une situation que l'on suivra de près, bien sûr. Merci pour ces informations, Sadia Mandjo de l'AFP Factuel, site de vérification de l'agence France Presse. À bientôt sur RFI.
Vérification faite.
C'est la fin des Dessous de l'Infox. Attaché de production, Florence Ponce. Documentation, Déborah Lepage. Réalisation, Hélène Avril. Merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet sous l'onglet podcast.
François Bernard
vous dit bonsoir et à la semaine prochaine.